Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va prendre des nouvelles de la monnaie volontaire. La monnaie volontaire, idée défendue par le livre Le pouvoir de la monnaie, qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Il s'agit d'avoir des euros qui seraient des euros gratuits, permanents, fabriqués par la Banque Centrale Européenne pour financer la transition verte de l'ensemble de l'Europe. Je le fais très court là, c'est l'introduction. Le monde change, les défis sont là. Alors est-ce qu'il faut changer les mécanismes de création monétaire tels qu'ils ont été installés aujourd'hui ? Mario Draghi s'exprimait à Washington, il parle d'un monde de choc d'offres. Il est formel, dans un monde de choc d'offres, oublier la politique monétaire pour y apporter des réponses, c'est pas son boulot, elle n'y parviendra pas. C'est donc la politique budgétaire qui devra agir, et donc il faut des taux bas. Il faut des taux bas pour permettre justement les dépenses d'investissement, dit l'ancien président de la BCE. Il appelle à une coordination des politiques monétaires et de la politique budgétaire, ça s'appelle le policy mix. Là, il n'y a rien de totalement révolutionnaire. Faut-il parler de recul sur les engagements verts pris par l'exécutif? On a eu ce matin la publication du décret qui prévoit 10 milliards d'euros d'économies nouvelles cette année. C'est publié au journal officiel. Il y en a pour tout le monde. Il y a 29 cibles pour parvenir aux 10 milliards, dont 2 milliards de moins dans un programme qui s'appelle Écologie Développement Durable. C'est parti. Vous avez vu, j'ai fait des progrès. Je donne moins de titres maintenant en introduction pour éviter d'arriver à la fin de l'émission en ayant annoncé 2-3 trucs qu'on n'a pas traités. Quand même, bon. Bonjour, Isabelle Coupet-Soubiran.
Bonjour, Nicolas.
Maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Et vous êtes donc co-auteur du pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous étiez venu, on en avait parlé avant la sortie du livre, qui avait été présenté en grande pompe dans une librairrie du 15e arrondissement, qui s'appelle l'inconstant,
Non.
Je sais plus comment elle s'appelle.
L'instant.
Là, voilà. Et il y avait Agnès Benassi-Kiré ce jour-là qui n'était pas super convaincue, mais justement, je voudrais savoir comment est-ce que ça a été reçu par la. Je ne veux pas dire le grand public, parce que je ne pense pas que le grand public se soit passionné pour l'histoire. Par contre,
mais
les économistes.
Que le grand public se passionne pour la monnaie. C'est un sujet.
Aucun problème. Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour Nicolas.
Professeur à l'EOMA Business School. Et bonjour Philippe Trénard.
Bonjour Nicolas.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, donc partenaire de cette émission chaque jeudi. J'ai dit, voilà. Alors, je lis un tout petit passage de la conclusion. Au moment de son émission, la durée de vie de la monnaie volontaire est non programmée. C'est donc une monnaie permanente qui va être octroyée via une subvention. Elle est mise en circulation à titre gratuit. La monnaie volontaire est une monnaie permanente, gratuite, sans dette et conditionnelle, puisque là, l'idée, c'est d'aller financer la transition écologique. La Banque centrale fait office de caissier du Trésor public.
Ah ben c'est pas le caissier du Trésor public.
C'est en page 369.
Mais pas le caissier du Trésor public. Mais
Il faut aussi.
Là, vous êtes dans l'annexe, là.
Oui, l'annexe comptable. C'est vrai, je suis dans l'annexe comptable. Bon. L'idée générale que j'ai décrite avec mes mots, on est dans les clous.
Oui, c'est ça.
C'est assez révolutionnaire. Ça fait maintenant quelques semaines que cette idée est contenue dans cet ouvrage écrit à Troyes. Comment ça a été accueilli ?
Alors, on n'est pas encore invité à en discuter avec Christine Lagarde ou avec François Villeroy de Galhau. Cela étant, on nous interroge de plus en plus. Alors, c'est à la fois la presse, ce sont des associations également citoyennes, des associations d'économie sociale et solidaire. Je pense que les citoyens s'intéressent de plus en plus à ces problématiques monétaires. On est également invité, bien sûr, à en discuter dans les universités. Donc, il y a plein de lieux où on discute de ces sujets monétaires. On est dans une période, je crois, vraiment de mutation monétaire, de transformation monétaire. Alors, tout le monde n'a pas finalement le même projet monétaire pour répondre aux enjeux. Ça dépend fondamentalement de la vision de société que l'on a. Mais si vous voulez, je crois qu'on sent tous quand même qu'on est dans un projet de société hérité du 19e siècle et on ne peut pas continuer avec les objectifs qui sont ceux de la société actuelle. On est dans un système où c'est l'accumulation, voilà, l'objectif c'est l'accumulation, c'est chercher la croissance, c'est chercher la rentabilité, c'est chercher la performance, et ça nous amène en fait droit dans le mur. Comment on fait pour arriver à lutter contre la crise écologique? Il y a plein de transformations à opérer. Nous, ce que nous disons dans l'ouvrage, c'est que si réellement on veut une bifurcation sociale écologique, alors tout le monde ne la veut pas, d'accord, mais si on veut de ce projet de société-là, eh bien ce projet de société nécessite une transformation monétaire. Dans l'ouvrage, on met beaucoup en correspondance, en fait, le projet de société et le projet monétaire. Si on veut une transformation sociale et écologique, on ne va pas pouvoir la faire avec le système monétaire hérité du 19e siècle, qui est un système monétaire formidable pour le système capitaliste, qui a épousé en fait l'essor du capitalisme marchand, industriel, financier, mais qui ne permettra pas en fait la bifurcation sociale et écologique.
J'entends très bien. Alors ce que je fais remarquer, car je le sais, c'est que les personnes qui ont rédigé cet ouvrage sont des gens qui ont une connaissance très fine et précise des mécanismes monétaires et de création monétaire. On a vu ce débat d'ailleurs lorsque vous plaidiez l'abandon des dettes Covid, et je vous disais, quelqu'un qui dirait ça sans connaître, mais vous en l'occurrence, vous savez très bien de quoi vous parlez. Je ne suis pas certain que les gens à qui vous présentez tout ça, ils partent d'un postulat où pour eux, la création monétaire, le rôle de la Banque centrale, c'est limpide, c'est évident, ils voient très très bien comment est-ce que tout ça doit évoluer.
Vous avez raison.
Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, mais parce que moi j'ai envie de vous dire, si je sais pas trop, c'est génial ce que vous proposez, pourquoi on ne l'a pas fait depuis des années?
Non mais il y a un grand voile d'ignorance autour de la monnaie.
C'est normal, pas, c'est et, complexe comme sujet, Isabelle.
Mais pas seulement chez le citoyen ordinaire. D'accord. C'est pas seulement le citoyen ordinaire qui ne sait pas comment est-ce qu'on met de la monnaie nouvelle dans le circuit économique. Même si vous interrogez en fait votre conseiller dans une agence bancaire, je suis pas certaine en fait qu'il arrivera à bien vous répondre, qu'il arrivera à vous expliquer que ce sont les crédits qui font les dépôts, que ce sont les achats de titres qui font les dépôts. Je suis pas certaine qu'il comprenne bien non plus le rôle de la banque centrale. Et même quand vous
interrogez, on va l'envoyer en page 361. Et 372 de l'annexe. Oui, mais c'est très clair, la monnaie bancaire traditionnelle, la monnaie bancaire acquisite. Bon.
Oui, oui. Et donc, il faut, si vous voulez, arriver à faire comprendre ces sujets-là. Il faut surtout arriver à faire comprendre que le système monétaire, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas gravé dans le marbre. Ça a beaucoup évolué dans le temps et systématiquement, ça a épousé le projet de société. La monnaie bancaire, c'est la monnaie du système qui a émergé au 19e siècle. C'est pas ce qui nous permettra de faire le projet de société de demain. Nous,
j'entends.
Pour que l'idée soit claire.
Mais elle est claire.
Mais si vous voulez, ce que nous disons, c'est qu'en fait, cette bifurcation.
On va laisser dire aussi en face.
Oui,
bon.
Mais cette bifurcation sociale et écologique, on va pas réussir à la faire complètement avec les ressources existantes, avec les ressources monétaires, financières existantes. Bien sûr que celles-ci, il faut les réallouer, mais cette réallocation, elle n'ira que vers des investissements verts rentables. Si on veut faire une bifurcation complète, si on veut intégrer dans tout cela des problèmes de biodiversité, où il faut réparer la nature, où il faut un accompagnement social très fort, où il faut des dépenses qui ne rapportent rien.
Oui, je sais.
Ça, on ne pourra pas le faire.
Entendu.
Dans le cadre du système actuel. Donc, et on ne pourra pas le faire non plus en créant de la monnaie selon les modes actuels.
J'ai bien compris, Isabelle Coppet.
Voilà, donc il faut
Mario Draghi,
ce nouveau mode,
il pense,
sans dette,
voilà.
et sans
dette. Et alors en plus, quand vous dites sans dette,
sans achat de titres,
je précise, c'est vrai, c'est techniquement vrai ce que vous dites, c'est effectivement sans dette. Mario Draghi, lui, il dit c'est politique budgétaire qui doit faire le job. Alors lui, pour lui, c'est les taux bas. Mais on fait réagir d'abord, Isabelle. La monnaie volontaire, comment vous accueillez la proposition et la démonstration de Isabelle Coppet-Soubeyran, Nathalie Janson, et puis je poserai la même question à Philippe Trénard.
Alors, bien évidemment, je ne suis pas en accord avec cette vision de monnaie volontaire, déjà parce qu'elle me rappelle beaucoup je pense que c'est une forme de planification monétaire revisitée. Donc, en fait, c'est surtout à ce niveau-là.
Qu'est-ce que vous appelez planification?
C'est-à-dire que là, c'est l'État qui va en fait créditer selon ce qu'il pense qui est le mieux. Il va donc émettre.
Hein. C'est pas du tout le schéma.
Les terminer, vous répondrez.
De ce que j'ai j'ai pu lire.
Donc c'est l'État qui va, pardon,
pour être sûr. De toute façon, oui, ça ne passe plus par le mécanisme de rentabilité. Donc s'il n'y a pas de mécanisme de rentabilité, pas de mécanisme de prix, effectivement, ça s'apparente, en tout cas, ça se rapproche de la planification. En fait, ce que en tout cas, effectivement, moi qui suis plutôt je suis plutôt en faveur de la liberté et de l'économie libre, du free market, et c'est le rôle du prix, c'est un indicateur, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. Pareil pour le profit, puisqu'il est rappelé également dans l'introduction et au début de l'ouvrage, qu'effectivement on peut pas continuer dans une course au profit. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec le profit. Après, ça dépend à quel niveau on le met, ça dépend dans quel cours on joue, puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'on soit coté sur un marché ou pas coté sur un marché. Le rôle du prix et du profit, puisque c'est lié, c'est simplement d'avoir une façon de choisir entre des projets et de choisir celui qui, en tout cas, indique que la ressource est la mieux allouée. C'est-à-dire que si on reprend le béaba de l'économie pure privée, le prix sert d'allocation. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous permettre de dire, bah voilà, si j'utilise comme ça cette ressource, elle est mieux utilisée que si j'utilise autrement.
Et donc,
la monnaie gratuite, en fait, il n'y a plus cet indicateur. Donc, s'il n'y a plus un indicateur, il faut donc que quelqu'un décide pourquoi on fait ça plutôt qu'autrement, et c'est pour ça que je le rapproche de la planification, puisque ça va être donc quelqu'un qui va décider, et moi je ne connais pas les critères de décision. Et effectivement, j'ai bien entendu qu'il peut y avoir, ça va être démocratique, etc.
Collégial
et démocratique, mais je me permets d'être très dubitative à l'aune de ce qui a pu se passer dans toutes les tentatives où on a voulu être démocratique et ouvert, et surtout au regard de tout le courant du public choice, donc de la théorie des choix publics, qui nous montre bien que effectivement même dans les démocraties, en fait, ça marche pas toujours très très bien, et que on a toujours un qui veut prendre le pouvoir par rapport à l'autre. Il y a plein de limites, en fait, dans cette capacité, en fait, à se substituer, à avoir un autre système qui est le prix. Et même si le prix n'est pas le meilleur, c'est-à-dire que la profitabilité est peut-être pas le meilleur système pour pouvoir discriminer des projets qui sont bien de projets qui ne sont pas bien, c'est le moins pire, en tout cas pour moi. Je préfère encore le prix que la décision démocratique. Pour finir, effectivement, il y a effectivement une transformation du système bancaire et monétaire, et là-dessus, je partage effectivement le constat. Il y a bien une transformation. Les banques jouent un rôle depuis très longtemps dans cette transformation. Elles jouent pas toujours un rôle très efficace. Ça aussi, je suis pas une fervente. Je ne défendrai pas de façon très fervente la façon dont les banques fonctionnent. Mais ma critique porterait complètement autrement sur la façon dont elles sont le système contrôle le risque. Les banques centrales ne contrôlent pas efficacement les banques ni les régulateurs, mais en fait donc c'est plutôt sur la différence de gouvernance, en fait, où je porterai ma critique. C'est-à-dire j'ai beaucoup de doutes sur la capacité de cette gouvernance à pouvoir délivrer une monnaie volontaire au sens où il est présenté.
Vous me dites que l'idée de révolutionner ou de changer les modes de création monétaire, vous n'y croyez pas?
Non.
Bon, Philippe Trédard, et puis après,
Nathalie croit au Bitcoin. Oui. Donc,
je crois qu'il y a, trois aspects dans le projet.
On essaye d'être très clair sur des sujets super compliqués.
Oui. Hein, il y a trois aspects dans le projet, et Jézabel a raison de dire, la monnaie, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense avec la monnaie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, les trois aspects. Financement de l'écologie, premier point. Deuxièmement, projet non remplable. Troisième point, démocratique. Financement de l'écologie. Total désaccord, ce n'est pas à la monnaie, je suis d'accord avec Draghi, de faire cela, n'est-ce pas ? Tous les projets écologiques sont potentiellement rentables. Et d'ailleurs, pour les rendre rentables, si on veut accélérer leur rentabilisation, on a un moyen qui s'appelle l'élévation du prix du carbone, c'est-à-dire le fait de faire prendre en compte le système de prix, les externalités négatives de l'utilisation des ressources non renouvelables. Donc nous avons un moyen beaucoup plus efficace qui permet de rester sur des projets et d'exiger des projets écologiques rentables. Deuxième point, non-rentabilité des projets. Non, écoutez, la rentabilité des projets permet une chose. Elle nous permet de nous assurer ou d'avoir un minimum de probabilité que les projets qui vont financer, n'est-ce pas, vont créer la richesse qui permet d'être la contrepartie de la monnaie. Si nous n'avons pas cette richesse créée, contrepartie de la monnaie, qui est une forme de rentabilité, n'est-ce pas, eh bien, obligatoirement, vous avez plus de monnaie que de richesse créée. Et de fait, si vous avez des projets non rentables, ça veut dire que ces projets, loin d'accroître la richesse nationale, loin d'accroître la richesse sociale, vont la détruire. Donc, finalement, ça va donner de l'inflation. Et nous avons un très bon exemple, n'est-ce pas ? L'Allemagne des années 20 et du début des années 30 finance la dette de guerre. C'est le projet parfaitement non rentable, avec toutes les conséquences que l'on a vues en matière d'inflation et qui ont conduit à la montée du nazisme. Troisièmement, démocratique. Alors là, il ne faut pas se gosser de mots.
Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme démocratique, Philippe Trenard ?
Oui, justement. Alors, il y a tout le monde...
Qu'on reproche parfois à la BCE de ne pas être une institution démocratique.
Elle est tout aussi démocratique, elle est responsable, elle a été, les personnes ont été nommées par des gouvernements élus, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas présidents de, ou est membre de la BCE à vie. Donc tout cela est tout à fait, démocratique. Tout dépend de la définition qu'on veut avoir de la démocratie. Je pourrais aussi bien dire, tous les projets devraient être soumis, qu'on financerait, devraient être soumis à référendum, par exemple. C'est aussi démocratique. Non, le mot démocratique est souvent un mot fourre-tout derrière lequel il n'y a rien de spécial. Dans la démocratie moderne, on bureaucratie, avec des bureaucrates qui ont des pouvoirs, qui sont des technocrates, et une des formes de cette technocratie, c'est la Banque centrale. Simplement, on assure une indépendance de telle façon à ce que la Banque centrale ne fasse pas de la réflation à la veille des élections, comme l'aimerait bien, par exemple, Trump s'il est élu.
Philippe, sur la monnaie volontaire,
oui,
vous y croyez ou vous pensez
pas du tout, parce que justement, il n'en faut pas. Il n'en faut pas. La monnaie volontaire, c'est une taxe, comme on l'appelle, de seigneuriage in fine, car elle se terminera obligatoirement par de l'inflation.
Gisabelle, il y a eu beaucoup de choses dites. Ouais. On a 4 minutes avant de marquer une pause. On ne fera pas les 55 minutes de live 100% sur la monnaie volontaire. Qu'est-ce que ça vous inspire comme, on a vu commencer le débat avec des choses... Des réactions relativement proches d'Agnès Benassi-Kéré qui trouvait qu'ils ont créé une confusion politique monétaire, politique budgétaire et que finalement la BCE était transformée en trésor, pour le faire de manière très courte. Que vous inspirent les réactions de nos deux camarades ?
Alors, déjà, si vous voulez, c'est pas...
En allant droit au but.
C'est pas un dispositif étatiste, technocratique que l'on propose. D'accord ? Si vous prenez, en fait, si vous voulez, les conceptions de la monnaie, vous avez des conceptions marchandes de la monnaie. La monnaie, actuellement, c'est effectivement une monnaie marchandisée qui est parfaitement adaptée au système capitaliste. Vous avez des conceptions étatistes de la monnaie, chez, par exemple chez les théoriciens de la monnaie moderne, chez ceux qui considèrent que le pouvoir monétaire, c'est celui de l'État. D'accord, et que l'État a le pouvoir de créer toute la monnaie qu'il veut. On n'est pas du tout dans cette conception-là. On est en fait dans une conception à mi-chemin. Dans notre schéma, il y a un institut d'émission qui est proche de la Banque centrale, à l'extérieur ou à l'intérieur, ça renvoie à des discussions. Et cet institut d'émission demande à la Banque centrale d'émettre de la monnaie sans dette, d'accord ? Cette monnaie sans dette est transférée...
C'est la subvention, ce que vous dites.
Ça permet effectivement une subvention. Elle est transférée à une société financière publique qui fonctionne en réseau, et cette société financière publique alloue des subventions à des agents privés et publics qui lui proposent, en fait, des projets à financer qui participent à la transformation écologique et sociale, des projets qui ont pour caractéristique d'être indispensables mais non rentables. Je ne suis pas d'accord avec Philippe lorsque il nous dit que tous les projets écologiques sont nécessairement rentables ou peuvent l'être. Je pense que c'est vraiment avoir une vision étroite de la transition écologique que de considérer que tous les investissements à réaliser sont rentables. Non, il y a trois grandes masses d'investissements. Il y a des investissements rentables, par exemple, dans les énergies renouvelables. Pour ça, la monnaie bancaire, les marchés financiers, c'est très bien. Et il faut quand même des politiques volontaristes pour arriver à réorienter les fonds. Ensuite, il y a des investissements qui sont moyennement rentables. Si vous pensez au grand plan de rénovation thermique, là, je suis désolée, mais on commence déjà à avoir besoin de mobiliser davantage des agents publics, des banques publiques d'investissement. Et puis, il y a tout le non rentable, tout l'accompagnement social, tout l'accompagnement qu'il faut apporter au secteur agricole, par exemple, au secteur industriel, pour se transformer, tout l'accompagnement qu'il faut apporter aux ménages pour qu'ils puissent entrer véritablement dans cette transition écologique, toute la réparation de la nature, tout ça, ce n'est pas rentable.
Toute la redistribution que ça suppose, c'est ce que vous m'expliquez.
Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, les aides qu'il faut apporter, quand Nathalie nous dit, le prix, le marché, c'est formidable, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un prix sur tous les les éléments de la nature. Après avoir mis un prix sur le carbone, on va mettre un prix sur l'eau, dans les océans, sur les rivières.
L'idée, c'est le carbone, hein, Gisabelle. L'objectif, oui, c'est le carbone.
Mais justement, c'est là.
L'eau, c'est... Bon.
Mais c'est là où vous vous trompez, parce qu'il n'y a pas que ça.
Mais vous ne pouvez pas courir 25 lièvres dans la transition verte.
Mais je suis désolée, il faut avoir une vision systémique, il faut avoir une vision globale, en fait, de la transition écologique. Vous ne pouvez pas la restreindre à la transition climatique. Bien sûr que si on avance dans la transition climatique, ce sera déjà un grand pas. Mais ce n'est pas que ça. Une transition écologique ne se réduit pas à une transition climatique.
On va marquer une pause. Vous pourrez réagir encore sur ce sujet. Ah ben, après, je vous ferai réagir de manière un peu plus basique. Vous avez vu qu'on a retiré des sous à MaPrimeRénov. On a, à mon avis, eu raison de modifier un peu le DPE. Là, il y a encore des engagements qui ont été pris après Ecophyto sur les pesticides. La niche du gazole non routier, on est en train de faire marche arrière. Les ZFE, il y a des villes qui renoncent parce que les gens ne veulent pas. Là, on a retiré 2 milliards d'euros au programme écologie développement durable. Et bien là, c'est pas de l'argent gratuit et permanent, celui-là. Et justement, il n'est pas permanent. Marque une pause. On se retrouve dans un instant. On évoquera. J'aimerais bien qu'on dise peut-être un petit mot de l'Allemagne et puis de l'euro numérique. Il n'y a rien de meilleur que l'euro numérique.
Pour se réveiller le matin.
C'est bon, ça. Un bon euro numérique. Voilà, la BCE tente de rassurer les banques commerciales, notamment les françaises, pour leur dire « Mais non, ça ne va pas vous tuer. » À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gisabelle Coupet-Souberan, maître de conférence à l'Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à l'Institut Veblen, qui a publié « Le pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société », sujet qui nous occupe depuis le début de l'émission aux éditions Les liens qui libèrent. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, et Philippe Trénard, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Il y a Bruno qui dit, il y a un des invités qui a moins parlé que les autres, ça doit être vous, Philippe, je pense. Mais il hésite entre une émission trop technique ou idéologique. Une autre invitée me dit, je suis un peu sous l'eau là ce matin depuis que je vous écoute. Voilà, alors je réécouterai parce que ça a l'air bien. Comme d'habitude, Gisabelle Coupet-Souberan tente de répondre à un problème concret de financement de la transition, tandis que ses contradicteurs restent sur des positions dogmatiques. Madame Janson et Monsieur Trénard, qui ne répondent absolument pas au problème, c'est désespérant. Mais à côté de ça, la clairvoyance de Nathalie Janson, merci. On repart sur quoi ? On ne fait pas toute l'émission dessus, mais...
La monnaie, c'est politique, de toute façon.
Là où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas politique, et c'est malheureusement pour ça.
Essayez d'avoir des propos accessibles pour tout le monde. Parce que je comprends quand on me dit qu'on est un peu sous l'eau.
Bien sûr.
Ce n'est pas le cas tous les matins. Hier, on faisait, faut-il encadrer le droit de grève ? C'était plus simple. Là, la monnaie volontaire, c'est un peu...
C'est ce qui nous sépare. C'est-à-dire que pour moi, la monnaie n'est pas un projet politique et malheureusement, elle l'est de fait. C'est-à-dire que les États ont toujours aimé avoir la main sur la monnaie parce qu'ils peuvent financer très facilement, c'est ce qu'ils ont fait toujours, leur guerre, ça a été rappelé par Philippe Trénard, mais ça c'est, je veux dire, c'est historique.
Les Britanniques créent le Parlement pour contrôler l'usage de l'argent par la couronne d'Angleterre.
Mais c'est bien ça, qui est c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire que la monnaie ne devrait pas être politique et c'est bien pour ça que j'adore le projet Bitcoin pour cette raison.
Alors, mais le projet Bitcoin est un projet politique, bien entendu.
Oui, il n'y a pas de politicien dedans.
Mais si,
le côté libertarien.
Qu'est-ce que c'est qu'un projet politique ? C'est un projet de société. C'est ça la politique, c'est une vision du monde, c'est une vision de la société. Le projet Bitcoin, c'est bien entendu une certaine vision du monde. C'est une vision du monde dans laquelle, on compte sur la technologie, on met en avant l'individu, des valeurs anarcho-libertaires, où on rejette la puissance publique, où on rejette la hiérarchie, où on rejette l'État, où on rejette toute forme de puissance
collective. La centralisation plus que la hiérarchie.
C'est un projet politique.
Vous, en fait, Nathalie, vous ne diriez pas la monnaie volontaire, mais la monnaie politique. Si on devait la rebaptiser...
Toute monnaie est politique. La monnaie actuelle aussi est politique.
Jean Baudin disait, le souverain fait la monnaie, pas les prix. Et c'est là où je pense qu'à l'arrivée, c'est sans doute...
Mais la politique, c'est pas simplement...
Philippe n'a pas tort sur l'idée que...
La politique, c'est le projet de société. C'est ça, la politique. C'est le fonctionnement de la cité.
Philippe ?
Oui.
Vous avez moins parlé que les autres. Il y a des auditeurs qui se désespèrent de votre déficit.
Voilà. Vous voulez que je commence ? Vous me dites quand je commence ?
Oui, alors allez, top, voilà. Maintenant. Top.
Écoutez, moi je suis... C'est très simple. Tout d'abord, si vous avez un tel projet, je puis vous garantir, comme je suis un ancien fonctionnaire, je sais comment ça fonctionne, vous aurez la queue de tous les faillis de la Terre qui partira de Bercy et qui ira jusqu'au Louvre, à peu près tous les jours, attendant avec des projets absolument géniaux et surtout répondant aux critères de non-rentabilité. Ils seront là. Donc, et ce qui est très très clair, c'est qu'un projet rentable, vous pouvez... Et justement, d'ailleurs, politiquement, vous pouvez le rendre rentable en introduisant des coûts pour l'usage de certains biens publics, de certains biens
économiques,
qui n'ont pas de prix immédiat sur le marché. C'est toute l'économie publique qui est fondée là-dessus, et toute l'économie de l'environnement est fondée là-dessus. Et cela permet justement de sélectionner les bons projets des mauvais projets. Les projets qui vont créer de la richesse privée, de la richesse sociale éventuellement, c'est effectivement pas exactement la même chose. Et alors nous dire par derrière que tout ça est politique, il n'y a pas d'opposition, la monnaie a toujours été politique, elle restera toujours politique, les gouverneurs de la Banque Centrale sont toujours nommés par le politique, que je sache, l'objectif de la Banque Centrale est défini par le politique, dire qu'elle a été dépolitisée, c'est tout à fait illusoire. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a rendue un peu indépendante de façon à ce que le gouverneur de la Banque Centrale ne soit pas dépendant à court terme du résultat de l'élection qui vient dans quelques semaines.
Il y a quand même eu des périodes où il n'y a pas eu de banque centrale, hein, juste pour... les banques centrales n'ont pas toujours été là. Il y a eu des moments où la banque... Alors, effectivement, au-delà de savoir que la monnaie est bien un projet de société, on est d'accord, mais néanmoins, il y a eu plein de périodes où il n'y a pas de banque centrale.
Et pourquoi
on les a introduits ?
Mais
c'est surtout un projet cohérent avec beaucoup
parce que
de projets de société.
C'est
un projet cohérent avec beaucoup de projets de société. En ce sens, tel qu'il l'est vu aujourd'hui, il est cohérent avec de multiples projets de société.
Projet cohérent, pardon.
Mais tous, de différentes majorités. La politique monétaire n'a pas changé avec des gouvernements de gauche, avec des gouvernements de droite, avec Syriza en Grèce, avec Meloni en Italie.
Non, elle a changé avec Mario Draghi.
Elle a changé avec Mario Draghi, avec Trichet, avec Lagarde. Il y a des changements avec les gouvernements.
On va avancer. Oui. Cette monnaie volontaire, vous en avez visiblement pas mal disserté depuis la sortie du livre. Vous imaginez que ça puisse exister ? Franchement, au fond de vous, Gisèle Coupé-Soubéran.
Je crois que ce dont il faut prendre conscience...
On n'a pas le droit de brider la réflexion, et ça, c'est hors de question. Mais est-ce que vraiment ça pourrait être quelque chose qui voit le jour, selon
vous ? La monnaie sans dette, la monnaie libre de dette, ça existe déjà, en fait. La Banque Centrale en a déjà créé. Lorsqu'elle a prêté aux banques des liquidités à taux négatif, que les banques ont remboursé moins que ce qui leur a été prêté, la différence, c'est quoi ? C'est de la monnaie centrale sans dette. D'accord ? Donc ça existe déjà,
c'est
la monnaie
centrale. C'est une anomalie.
Ce que nous disons, c'est qu'en fait, techniquement, c'est bien sûr possible que cette monnaie sans dette peut être une nouvelle façon de créer de la monnaie et que ça permet justement d'accroître la capacité de subvention dans l'économie et de ne plus, si vous voulez, subordonner en fait cette capacité de subvention simplement aux capacités d'emprunt des États sur les marchés. Quand Philippe nous dit en fait on peut rendre tous les projets rentables au fond en y intégrant des subventions, où est-ce qu'on les trouve,
des coûts sociaux.
Eh bien, il faut accroître ce pouvoir de subvention, et ce pouvoir de subvention on peut l'accroître en introduisant un nouveau mode d'émission de la monnaie qui d'une certaine manière existe déjà, sauf qu'il n'a bénéficié qu'aux banques. Faisons en sorte que ça bénéficie au-delà des banques à tous les agents qui ont besoin de réaliser des projets de transformation non rentables. Tout ce qui est rentable, on peut le financer autrement.
Non, mais je pense que la période que vous décrivez avec les taux négatifs était une période anormale. Dire que ça a profité qu'aux banques, ça a profité à la stabilité financière et ça et a profité.
Oui, mais vous voyez que ça n'a même pas permis de réaliser les investissements de transformation dont on a besoin.
Ça, pour le coup, ce sont des choix politiques
de politique keynésienne, c'est-à-dire où les agents ont une vision négative de la croissance. Et pour redresser cette vision négative de la croissance, vous êtes obligé d'avoir très temporairement des taux d'intérêt négatifs. Mais l'objectif, il est extrêmement précis.
Le très temporaire était quand même très long.
Oui, mais c'est pour terminer. C'est pas 10 ans. C'est pas... Le projet écologique, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Moi, ça me fascine.
Non, le projet écologique, ça doit devenir, en fait, le projet de société. Le respect des limites.
Sur 40 ans, c'est maintenant et demain.
Non, mais justement, ça aussi, si vous voulez, c'est quand même une vision assez étroite. C'est-à-dire qu'il nous faut réaliser une transition pour pouvoir basculer véritablement vers un autre modèle, vers un autre modèle économique dans lequel on respecte les limites planétaires. On ne les respecte pas aujourd'hui. Vous avez 6 limites sur 9 qui sont complètement
explosées. Non, mais on est tous d'accord. Bon, ce qu'il y a, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas une question sur un an ou deux ans. C'est une question de court terme et de long terme.
Mais c'est
Nathalie,
une question d'éternité.
Est-ce que vous pensez que... Alors, techniquement, Jezabel a raison, c'est possible. Techniquement, c'est possible. D'abord, on peut très bien...
Non, mais ça existait.
Voilà.
Bon, de toute façon,
c'est... Ouais. Surtout, ça existe déjà. Enfin, la monnaie libre de dette, ça existe
vous
déjà.
Vous pensez qu'on ira vers ça?
Non.
Jean-Pierre Petit était là le jour où il y avait... Ouais, était, lui, il pense qu'on finira par... On finira par faire ça, on finira par refaire du quantitative easing, on finira par faire de l'hélicoptère monnaie, on finira par faire des trucs qu'on pensait impossibles.
Bah, moi, je le souhaite pas, en tout cas. Enfin, je pense pas qu'on ira vers ça, et je le souhaite surtout pas.
Mais pourquoi?
Non, mais on l'aura, mais dans des conditions assez radicalement différentes de ce que prévoit Jezabel.
À court terme, parce que vous disiez court terme, long terme, la solution n'est-elle pas dans une baisse plus rapide que prévu des taux de la BCE, finalement?
Mais ça permettra, si vous voulez, de rendre à nouveau possible.
Ah bon? Alors attendez.
Surtout pas.
Allez, pop. Jezabel et puis Philippe.
Alors.
Court, hein, parce que voilà. Oui. Straight to the point. Hein.
Si les taux d'intérêt baissent à nouveau, ce qui n'est absolument pas certain, ça va vraiment dépendre de l'évolution de l'inflation. Si les taux d'intérêt baissent à nouveau, ça permettra peut-être de faciliter des investissements. Mais encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, même dans la période de taux très bas, voire négatif, nous n'avons pas réalisé les investissements publics et privés nécessaires à la transition écologique. Donc vous voyez qu'il y a un problème dans les arcanes, en fait, du système monétaire.
Après,
et
il y a les choix politiques. Hein. Il y a ceux qui réparent le toit quand il fait beau et ceux qui ne le font pas.
Oui, mais il y a, alors, bien sûr, un problème de choix politique et un problème également d'institutions, de moyens pour mettre, si vous voulez, en application ces choix politiques. Ça va de pair.
Là, vous disiez...
Oui, non. La monnaie, quand vous créez de la monnaie comme ça, vous ne changez pas la capacité de production de la nation. Le montant de richesse reste inchangé.
Mais c'est quoi la richesse ?
Ce que vous faites, c'est vous piquez une partie de la richesse qui allait aller vers des projets rentables, en l'occurrence, pour les mettre sur d'autres projets. Donc, quelque part, c'est ça qui se passe. C'est une simple redistribution. Vous prenez de l'argent et vous dites, c'est pas le projet X que je vais réaliser, mais c'est le projet Y que je vais réaliser. C'est tout ce que vous faites. Mais ce faisant, vous n'avez pas changé la capacité de production de la nation.
Mais
c'est toujours la même, à part que vous l'orientez différemment.
Est-ce que c'est urgent de baisser les taux d'intérêt selon vous maintenant au niveau de...
Non, il ne faut pas baisser les taux d'intérêt parce qu'il faut lutter contre l'inflation, il faut s'assurer que l'inflation soit basse de façon à faciliter toutes les anticipations des agents. Moins il y a d'inflation, plus nous savons que les agents ont la capacité de se projeter dans le futur, et notamment de se projeter dans le futur écologique.
On attend d'avoir une inflation sur 12 mois qui est retombée à 2 pour décider de faire quelque chose, ou alors...
Pour moi, le 2% est un chiffre raisonnable. Maintenant, je ne suis pas... Ça pourrait être 2,5, ça pourrait être 1,5, ça pourrait être 3. Le tout, c'est d'avoir un objectif, de s'y tenir, et qu'il ne soit pas élevé, de façon à ce que les agents puissent se projeter raisonnablement dans l'avenir.
L'intervention de Philippe, pose une question intéressante. C'est qu'est-ce que la richesse? Est-ce que la richesse, c'est simplement la richesse marchande? Qu'est-ce que notre richesse? Notre richesse aussi, c'est la préservation de la planète sur laquelle on vit, d'accord? Et pour ça, je pense qu'on a besoin précisément de repenser nos institutions, Nathalie, et en particulier la monnaie.
La baisse des taux, là, j'ai quand même plein d'intervenants qui disent que ça devrait presque être déjà fait.
Parce que on a dans notre, en particulier en France, quand on a des chiffres qui arrivent à la récession, il faut baisser les taux tout de suite. Donc c'est je pense que l'opinion majeure va dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'il faut les baisser tout de suite immédiatement? Effectivement, il n'y a pas, ils ont tellement été très bas pendant très longtemps que, honnêtement, je ne sais pas quel est le vrai taux qu'il faudrait. Il y avait eu des articles assez intéressants sur savoir ce qui est aujourd'hui le vrai taux que devrait avoir la Banque centrale.
Le bon bon taux, vous voulez dire.
Exactement, le bon taux.
Mais qui veut...
De toute façon, on sait une chose, c'est qu'au niveau des États-Unis, ça risque pas d'arriver demain matin, vu effectivement leur la dynamique qui est assez différente de celle européenne. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, est-ce que la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux, alors que la Banque Centrale Américaine, pour le moment, s'est repoussée, hein. D'ailleurs, à ce titre, c'est assez drôle de voir que les marchés ont souvent joué perdant depuis plusieurs mois.
Mais bon, la Banque Centrale Américaine, elle attend de voir les chiffres de création d'emploi.
Exactement. Pour ce qui est de l'Europe, à part effectivement les chiffres de croissance qui sont mous, il n'y a pas non plus d'autres facteurs très aggravants pour le moment. Et comme il y a eu, comme je l'ai répété plusieurs fois, des liquidités qui ont inondé depuis de très nombreuses années, je ne sais pas non plus si c'est le moment. On voit bien, la bourse est encore à la hausse. Enfin, il y a plein d'indicateurs qui font qu'on se demande effectivement si on a fini l'assainissement. Et la nouvelle qui peut aussi où on peut se dire que finalement les taux vont peut-être pas redescendre si tôt, en tout cas dans un plus long terme, c'est qu'on a tellement besoin de financement au niveau des États dans les années à venir, vu les déficits qui restent et donc la dette qui va continuer, que là aussi on peut se demander si les taux vont vraiment rebaisser.
D'accord.
Et qui veut la baisse des taux? Les financiers, hein, avant tout. Les banques centrales sont beaucoup dans l'incertitude.
Ils sont contents. Eux, ils ont compris que s'ils demandent beaucoup, et ça, quand ils jouent, ils gagnent. Donc, ils peuvent tenter de gagner.
Il n'y a pas que la richesse, il y a l'avenir du monde, disait Isabelle Coupé-Soubéran. On vient de retirer 1 milliard à MaPrimeRénov. On a modifié le DPE pour essayer de réhabiliter la note des petites surfaces de moins de 40 mètres carrés. Je pense qu'on n'a pas eu complètement tort. Les pesticides, c'est recul sur recul avec la colère des agriculteurs. La niche sur le gazole non routier qui devait progressivement disparaître. On est en train de compenser parce que ça passe pas. Il y a des villes qui devaient faire la ZFE, la zone de faible émission, qui reportent, parce que la population a du mal à le vivre. C'est considéré comme une mesure anti-pauvre. Celui qui peut pas changer de voiture, il peut plus rentrer en centre-ville. Et puis là, le décret 10 milliards d'euros d'économies publié au JO ce matin, 2 milliards en moins sur les 10 milliards pour le programme écologie et développement durable. Ça vous inspire quoi, Gisabelle? On est en train de... Fin du monde, fin du mois, on voit que le match est...
Mais vous voyez
se joue pas à armes égales.
Oui.
Après, est-ce qu'on peut dire qu'on recule lamentablement? Alors, pas non plus exagérer, je sais pas.
Fin du mois, fin du monde, ça doit justement aller ensemble. Oui. La transition écologique, ça doit être aussi une transition sociale. Si les deux ne vont pas de pair, ça ne fonctionnera pas. Et tant qu'on demande effectivement à tous les agents, à tous les secteurs de faire des efforts de transformation écologique sans les accompagner, ça ne peut pas fonctionner. Et vous voyez aussi que, au fond, au lieu d'accroître les moyens permettant d'avancer dans cette transformation écologique, eh bien, on ne fait qu'en supprimer. D'accord ? On les restreint. On ne peut pas, finalement, réaliser cette transformation en l'état actuel du système monétaire et financier. D'où le pouvoir de la monnaie.
Quelqu'un m'a dit, vous faites la promo du bouquin. C'est pas pour faire la promo que j'ai dit ça.
C'est pour explorer sujet monétaire qui est un sujet indispensable.
C'est la contre-révolution verte, Philippe ? J'ai vu ces titres-là.
Oui. Il y a un backlash. Il y a aujourd'hui un backlash des grands financiers qui voient justement que l'opinion publique est plutôt contre. Elle n'est pas favorable. Voilà. Et qu'au fond, c'est une affaire plutôt d'experts. Nous, experts, n'avons pas bien su vendre la transition écologique.
Je crois l'une des grandes erreurs. Nous, experts, n'avons pas su vendre la transition écologique.
Justement, qu'il fallait augmenter le prix des énergies non renouvelables, que ça coûtait beaucoup plus cher, que ça avait des conséquences négatives qu'il faudrait combattre. Et l'un des problèmes de la transition...
Oui, là-dessus, la réponse n'est pas claire. Elle est peut-être mûre dans vos esprits à vous, mais pas dans ceux qui gouvernent.
Voilà, elle est.
Il faut rendre ça acceptable.
Le mélange que propose, par exemple, Gisabelle, entre politique sociale et politique écologique et énergétique, est justement catastrophique. Parce que dans l'esprit de l'électeur, dans l'esprit de la personne, il voit les coûts exploser d'un seul coup. Et puis, il est mis en concurrence. Il dit, mais pourquoi vous subventionnez X et pas moi, n'est-ce pas? Donc, la porte de la concurrence est ouverte. Non, il faut bien distinguer les politiques sociales et les politiques écologiques. Pour moi, ce sont deux moments extrêmement différents. Indépendamment de votre politique sociale, vous devez avoir une politique écologique. Après ça, la politique sociale différenciera probablement des politiques plutôt de droite, moins redistributives, plus responsabilisantes, et des politiques de gauche plus de redistributive et moins responsabilisante.
Je suis en désaccord complet.
Je pense qu'on peut arriver au résultat final, on peut arriver à la même chose.
Si on ne fait pas de la transition écologique également une transition sociale, eh bien, on n'y arrivera pas. Les deux vont de pair. Il faut cesser d'opposer, si vous voulez, fin du mois.
Il n'y aura pas de transition écologique avec votre transition sociale, parce que les projets de transition sociale, entre guillemets, sont extrêmement différents. Il n'y a qu'à regarder, là, pour le coup, les sondages. Là, autant sur l'écologie, en principe, tout le monde est plutôt un peu d'accord, pourvu qu'il ne paye pas. Autant sur le social, tout le monde n'est pas d'accord du tout. Et nous avons beaucoup de projets rivaux.
Mais pourquoi les gens ne veulent pas, justement, aujourd'hui, consentir aux efforts de transition, précisément parce qu'on ne leur en donne pas les moyens. Il faut que les moyens aillent de pair avec les transformations à opérer. C'est en cela que transition écologique et transition sociale doivent aller de pair.
Non, mais à ce moment-là, juste un point, ce que vous dites, oui, si nous n'achetons pas l'électorat, il sera pas pour nous. Ça s'appelle acheter l'électorat.
Mais pas du tout.
Ça, c'est de la corruption.
Donner les moyens aux gens.
C'est ce qu'on appelle la corruption politique. C'est peut-être pas de la corruption légale, c'est pas de la corruption, mais c'est de la corruption politique. J'achète l'électorat, comme ça, il est pour moi. Regardez la politique de Trump, la stratégie de Trump, elle est très claire.
Mais c'est scandaleux de dire ça. Mais c'est scandaleux de dire ça.
Parce que vous dites, il faut du social. C'est-à-dire, il faut acheter les gens, comme ça, ils accepteront.
Pas du tout, il faut accompagner les gens.
C'est la même chose, mais pour moi, dans mon esprit, ce que vous appelez accompagner, c'est acheter. C'est équivalent dans ma tête.
Nathalie, on fait un peu d'euro numérique après. On va prendre l'air.
Il
sera vert en plus, cet euro numérique.
Juste pour rebondir. Moi, de toute façon, le travers que je pense être dans le livre et qu'on revoit à travers les désaccords ici, c'est qu'effectivement, on veut absolument imposer l'urgence climatique. Je ne dis pas qu'elle n'est pas là, l'urgence climatique. Je dis simplement qu'elle se fait parce que effectivement on va avoir des gens qui vont vouloir s'en emparer, et je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen pour qu'ils s'en emparent, la façon dont effectivement Jézabel le suggère, et je pense qu'effectivement c'est dans le comportement du quotidien que la transformation en fait des comportements des gens que ça peut se faire. Donc effectivement je suis plus de l'équipe de ceux qui pensent que c'est le prix qui sera un déterminant dans le déclenchement des comportements, parce que de toute façon même aujourd'hui, vous pouvez avoir des comportements tout à fait écologiques, tout à fait vertueux, et il y a plein de gens qui ne les ont pas. Je ne vais pas reprendre mes exemples ridicules, mais qui existent quand même. Il suffit d'aller sur un marché de proximité pour voir la moyenne d'âge de celui qui vient faire son marché. C'est relativement écologique d'aller faire son marché, parce que c'est à côté, et on ne prend pas sa voiture, et on a des produits souvent qui sont locaux. Ben, je peux vous dire que la moyenne d'âge, elle est très élevée. Donc ça veut bien dire que beaucoup de gens, ça ne les intéresse pas, et que donc pour les intéresser,
Je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire. Je ne sais pas si c'est que de l'accompagnement financier, mais tout le monde veut du circuit court, de la planète verte, du bio, de l'éco-responsable.
Parce que n'a pas les moyens de le faire.
Et quand vous voyez,
vous êtes déraisonnable quand vous nous dites que il ne faut pas imposer l'urgence climatique ou l'urgence écologique. Nous sommes dans une crise écologique. Nous sommes en pleine crise écologique. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons plus habiter cette planète.
La France et l'Europe ne fasse rien. Vous prenez tous les bilans d'action, c'est quand même en Europe qu'il se passe le plus de trucs.
Exactement. On ne fait pas rien, mais on ne fait pas assez.
Oui, d'accord.
On n'est pas du tout sur les trajectoires nous permettant d'atteindre les objectifs qui sont fixés.
Jusqu'à maintenant, les réponses technologiques aux problèmes, elles ont plutôt été données par le marché que par les gouvernements. On regarde tout ce qui est les problèmes de terrain sismique. Il est clair qu'aux États-Unis comme au Japon, on est bien mieux préparé que lorsqu'on a affaire à des pays en développement. Donc, effectivement, j'ai la faiblesse de penser que c'est le marché qui fournit les réponses et pas l'État. Parce que je pense que le marché est la matrice du marché est problem solving. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une solution. Donc, peut-être qu'ils vont pas à la vitesse que vous souhaitez. Et ça, je peux l'entendre. Mais je pense que c'est quand même le marché qui trouvera les meilleures solutions qui pourront être soutenables dans le temps.
Philippe, non, mais réagir. J'aimerais qu'on dise un mot d'euro numérique après.
Je crois qu'il faut absolument aller dans le sens qui était que vous indiquiez, c'est-à-dire d'envoyer les signaux prix, parce que de fait, les investisseurs sont réticents parce qu'ils voient pas bien où nous allons. N'est-ce pas? Il vous suffit d'aller dans les campagnes, aller partout. Quand vous dites à quelqu'un de changer sa chaudière, quelle va être sa première remarque? Mais est-ce que vous êtes sûr que ma nouvelle chaudière, elle va pas être interdite dans 2 ans ou dans 3 ans pour des raisons d'ailleurs écologiques? Donc on a un vrai sujet de consistance intertemporelle, de cohérence intertemporelle dans la politique écologique que nous menons. D'où les réticences, n'est-ce pas? Et là, on a un travail de conviction. On n'a pas un travail d'arrosage d'argent. On a un travail de conviction.
Chacun sa magie. Hein. Votre magie, c'est le marché, c'est la technologie.
Vous, c'est la monnaie volontaire.
La magie, c'est la dette publique. Nous, effectivement, on propose, si vous voulez, d'activer davantage ce levier monétaire, mais n'opposons pas tout.
Voilà. Bon, moi, j'ai été frappé par un chiffre récemment, parce que vous reprenez les enquêtes d'opinion sur faut-il un monde plus vert, plus court, circuit court, éco-responsable, tout le monde est pour. Prenez le nombre d'abonnés à Temu. Le site où vous pouvez acheter des saloperies à moins de 1 euro qui viennent de Chine avec c'est
énorme.
Délirant, quoi. Il y a des millions de personnes qui achètent sur Temu des saloperies qui coûtent moins de 1 euro ou 1 euro 50 et qui viennent gratuitement car les frais de
livraison. C'était la même chose avec les supermarchés. Ça faisait rire parce que tout le monde était contre les supermarchés, mais les petits commerçants disparaissaient parce que les gens y allaient, quoi.
C'est l'arbitrage économique classique.
Exactement.
Si j'ai un produit moins cher, je vais aller vers ce produit moins cher que j'ai ou que je n'ai pas les moyens.
L'euro numérique, la BCE dit, le projet est en cours. Pour l'instant, c'est très nébuleux pour chacun d'entre nous. Mais l'idée, c'est qu'un jour, à terme, on aura peut-être tous, en tant que citoyens de la zone euro, un compte directement à la Banque Centrale Européenne. Alors la BCE dit, attention, on ne va pas faire n'importe quoi. Ce sera pour payer. Ce ne sera pas un moyen d'investir. Sous-entendu, je ne vais pas vous retirer, vous, banque commerciale, la production de crédit. C'est vous qui allez garder la production de crédit. Et puis, les banques qui considèrent que finalement, un euro numérique fait qu'on pourrait quasiment se passer d'elles, disent, attention, il faut qu'il y ait 500 euros maximum par compte d'euro numérique. La BCE dit, on verra. Enfin, on pourrait peut-être imaginer de limiter à 3000 euros. Voilà. En fait, je vous dis ça, mais c'est quoi la question?
Ça peut être un grand projet.
Ça
peut être un grand projet.
Bon, allez vite, on a 2 minutes.
Ouais. Le problème, c'est que pour le moment, en fait, seules les banques, finalement, on voit au chapitre dans la consultation organisée par la Banque Centrale, alors que ça aussi, ça pourrait, si vous voulez, participer
à un
nouveau projet de société. Mais l'euro numérique, ça permettrait de rétablir un service public de la monnaie qui n'existe plus. D'accord? Donc ça, c'est important.
Si on le veut, on peut donner un hélicoptère monnaie directement.
Alors c'est le potentiel en termes de politique économique, en termes de politique monétaire. Effectivement, si demain tout le monde a un compte à la Banque Centrale Européenne, alors dans les moments de crise, eh bien plutôt que de faire du QE qui accroît l'instabilité financière, qui accroît les inégalités, la Banque Centrale peut faire une relance monétaire en versant directement des euros sur le compte de chacun à la Banque Centrale. Ce serait beaucoup plus efficace. Ça, ce serait une opération ponctuelle. Et au passage, ça aussi, ce serait de la monnaie libre de dette, mais ponctuelle.
Là-dessus, alors, une minute à deux, ça va être compliqué.
Une minute.
Non, à deux.
Deux, oui, d'accord.
30 secondes chacun.
Les banquiers centraux voient très bien que le Bitcoin, tout d'un coup, fonctionne.
Oui.
Et qu'est-ce qui fonctionne dans le Bitcoin? C'est simplement l'idée que quelqu'un annonce ex ante combien de monnaie il va créer et ne va pas dépasser ce montant de monnaie créée, ce qui donne une certaine valeur à la monnaie, c'est-à-dire la bijection.
J'ai du mal à faire le parallèle complet
entre les richesses que ça sert à financer et la monnaie et sauve. Donc, il est clair que ce qui fait un peu le succès du Bitcoin, à tort ou à raison, mais ce qui fait le succès, les banquiers centraux vont être très intéressés à se mettre dans la concurrence. Donc, ils vont s'y mettre, ils vont être concurrents, et ça va être très intéressant. Naturellement, ça pose un problème, c'est qu'il y a une garantie implicite de la Banque Centrale sur le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, qui n'existe même pas pour le Bitcoin.
Les gens, ils vont dire, bon, je veux plus avoir mon compte dans ma banque.
Ça va être un genre de stable coins, et on sait que tous les crypto-monnaies qui ont posé problème sont des stable coins.
Vous allez manger à la minute, hein. tout seul, pardon, comme un grand. Voilà. Bon, Nathalie, la prochaine fois, on en reprend.
Je suis une frustration.
Oui,
là.
On en refait. Objectivement, tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu veux garder ton compte dans ta banque commerciale, qui est quand même jamais totalement à l'abri de la feuille, ou tu veux avoir un compte banque centrale?
C'est pas, en tout cas, pour le moment, c'est pas le projet.
C'est un système
à deux niveaux. Hein,
je vous rappelle, après les propos de François Villeroy de Gueux dans Paris Europlace, que j'avais demandé au président de Paris Europlace, Augustin de Romanet, qu'est-ce que vous avez pigé de ce qu'a dit le gouverneur? Et il m'a dit, c'est la question la plus compliquée qu'on m'ait posée depuis trois jours parce que je suis un peu largué. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, en parler qu'avec les banquiers, c'est déjà pas mal. On verra si on en fait un débat national.
Ce serait bien d'en parler avec les citoyens.
Il y avait eu une page dans le Parisien, j'avais dit, c'est un événement. Voilà.
Mais, quand il y a eu le lancement 1er novembre.
Mais plus maintenant, c'est fini. On me dit fini. Donc c'est terminé. C'était Jezabel Coupé-Soubeyran, Nathalie Janson et Philippe Trénard. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.